parler de la représentation des Noirs américains dans le cinéma du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, pour essayer de couvrir une longue période, et sous le prisme de la représentation de la plantation. La plantation dans le sud des États-Unis, donc là où avait lieu l'esclavage au XIXe siècle. Je vous propose de commencer avec une citation de l'historien Jacques Porte, qui nous rappelle que des pans entiers de l'histoire des États-Unis sont plus connus à travers les images transmises par les films que par les pages des plus éminents historiens. C'est important d'avoir à l'esprit, quand on fait de l'histoire à partir de sources cinématographiques, qu'il y a toujours une part d'interprétation dans les films de fiction, et souvent on pense connaître l'histoire à travers des films parce qu'on a vu les films historiques et réalistes, mais c'est à nuancer. En gardant à l'esprit que la diffusion extrêmement large des films de grand public aux États-Unis et même de manière internationale acquiert au fil du temps et de la répétition une valeur historique qui façonne durablement l'imaginaire collectif. Pour que vous ayez quelques repères chronologiques sur la représentation des Noirs américains au cinéma, de la naissance du cinéma à la fin du XIXe siècle, et particulièrement avec Naissance d'une Nation, Birth of a Nation, dont on parlera un petit peu après, jusqu'aux années 50, le cinéma est au diapason de la société. Il se révèle être un lieu où les Noirs sont représentés de manière extrêmement caricaturale, dans des carcans de stéréotypes qui sont le reflet de l'oppression qu'ils subissent dans la société et qui alimentent aussi, par la force de la répétition dans l'imaginaire collectif, cette oppression. Des années 50 aux années 1990, on a une amélioration de ces clichés. Les stéréotypes existent toujours, les Noirs sont toujours enfermés au cinéma dans des rôles types, mais des rôles un peu plus positifs. Par exemple, ils sont moins représentés comme des prédateurs sexuels et plus comme des personnes très respectables, des médecins qui ont fait des grandes études, mais ça reste que ce sont des représentations clichés et par le prisme des Blancs, puisqu'ils sont représentés par majoritairement des réalisateurs Blancs. Et des années 90 aux années 2020, donc à aujourd'hui, notamment avec l'émergence de réalisateurs africains-américains qui peuvent se saisir de leur expérience et la partager au plus grand nombre, et aussi parce que le public mainstream est de plus en plus intéressé par ces questionnements, on a une sorte de mise à distance des clichés, des représentations qui sont plus nuancées, plus justes de la complexité des relations raciales aux États-Unis. Pour définir quelques définitions garder en tête, on a le Land of Plenty, qui est le mythe de la terre d'abondance aux États-Unis. C'est d'arriver sur un territoire qui permet à tous de subvenir à leurs besoins et de vivre. Et le Locus Horribilis, comme vous le savez certainement, c'est un topos littéraire qui date de l'Antiquité, dans lequel un personnage est isolé du monde et en proie à une grande terreur dans un environnement qui lui est extrêmement hostile. Et bien évidemment, quand on parle de race en étudiant ces questions, ce n'est pas dans l'idée d'une réalité biologique, mais du construit social qui est une réalité aux États-Unis et qui régit l'intégralité des relations interpersonnelles depuis leur fondation. L'idée ici, c'est de voir avec vous comment, par la représentation de la plantation, de l'esclavage, on a un miroir des enjeux idéologiques à l'œuvre aux États-Unis, et puis un miroir de la construction nationale aussi, du rapport au passé, où finalement la plantation montre l'évolution de la représentation culturelle, et on passe du diffuseur qui légitime l'idéologie suprémaciste blanche à paradoxalement le lieu d'expression de l'émancipation culturelle des Noirs sur les années plus récentes. Donc tout d'abord, ce qui est mis en avant au début du XXe siècle, jusqu'à assez récemment, c'est la nostalgie du vieux sud pastoral qui est idéalisée et mythifiée, et la plantation vient ici matérialiser par l'image un avant et un après la guerre civile, et où en fait on a le passage d'une civilisation florissante, des antebellumiers à une terre aride et une civilisation en péril. C'est Naissance d'une Nation en 1915 qui introduit ce motif, qui est un film extrêmement fondateur déjà d'un point de vue technique. C'est un des premiers films sur lesquels il y a une vraie photographie. Les photographes de la guerre de sécession interviennent sur le film. C'est un film qui dure plus de 3 heures et qui constitue, si on pouvait utiliser les mots d'aujourd'hui, c'est le premier blockbuster hollywoodien. Et ce film évoque la période d'avant la guerre de sécession, la période de la guerre et la période de la reconstruction, d'un point de vue extrêmement biaisé, puisque la période de la reconstruction montre les milices de Noirs qui prennent possession du Sud et qui mettent en péril les personnes blanches sans défense, ce qui justifie la fondation du Ku Klux Klan. Et ce film crée une typologie de clichés qui enferme les Noirs, qui dure ensuite dans tout le cinéma du XXe siècle. Donc le contexte historique de la fin de la guerre de sécession, c'est qu'on a une défaite militaire, mais en parallèle de cette défaite militaire, il y a une narration du passé et une narration de l'idée d'une victoire volée qui se développe. Et donc c'est le mythe de la cause perdue, de la lost cause, qui devient une force de vérité à force d'être répétée. Et notamment diffusé par des éléments culturels, on a cette idée que le Sud a été privé d'une victoire et que la civilisation a été détruite par la guerre. Donc la civilisation étant une harmonie entre les maîtres et les esclaves, un ordre social connu et intégré par tous, et une joie des esclaves à voir leur maître, comme on peut le voir ici dans Naissance d'une nation, mais aussi dans Autant en emporte le vent, où le personnage de Scarlett O'Hara grandit dans une plantation verdoyante où les esclaves sont heureux de travailler et extrêmement attachés à leur maître, dans une sorte de paradis pastoral, on pourrait le qualifier ainsi. Et on le voit aussi un petit peu plus récemment, en 1946, dans le film Song of the South, qui est un Disney, dans lequel un petit garçon passait ses vacances dans la plantation de sa grand-mère, et il passe beaucoup de temps avec un esclave, oncle Remus, qui lui raconte les histoires d'un lapin à qui il arrive beaucoup d'aventures. Et aux images cinématographiques se superposent du dessin animé qui accentue encore l'idée d'insouciance et le côté très bucolique que la Lost Cause associe à la plantation. Ce côté bucolique est détruit par l'arrivée de la guerre et donc le conflit qui détruit la terre avant toute chose. Le cœur de la mythologie de la Lost Cause, c'est de dire que la guerre a détruit une civilisation. Ce qui n'est pas dit de manière frontale, c'est que cette civilisation repose sur l'esclavage. Si la terre devient aride suite à la guerre et pendant la reconstruction, c'est aussi parce qu'il n'y a plus d'esclaves pour l'entretenir. Mais là, cette réalité factuelle est, si on peut dire, glamourisée par Hollywood avec l'image d'une terre qui souffre. Donc on le voit dans Naissance d'une nation, on le voit aussi dans Autant en emporte le vent, quand Scarlett O'Hara revient sur sa terre natale avec le ciel encore plein des couleurs de l'incendie, où elle doit essayer de faire revivre cette terre qui souffre. Donc sans esclaves pour cultiver la terre, la civilisation est en perdition, mais dans cette mythologie, les esclaves sont heureux de leurs conditions de servitude, et on est dans une nostalgie du temps d'avant. Et cette diffusion par les films d'extrêmement grand public et cette présence idéologique dans tous les pans culturels fait aussi que c'est une mythologie qui acquiert des accents de vérité aussi dans le discours historiographique, aussi dans les relations politiques et dans tous les pans sociaux aux États-Unis tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Plus récemment, dans les années 2010, on va voir dans le cinéma réaliste des images plus fiables de la réalité de la plantation, avec cependant une forme d'excès inverse, là où la première moitié du XXe siècle idéalisait la plantation et la relation entre les maîtres et les esclaves. Ici, on a une forme de diabolisation du lieu qui est largement mise en avant de manière esthétique par le contraste entre la beauté des paysages qui sont toujours extrêmement bucoliques et la réalité des souffrances que subissent les esclaves, donc avec les dos qui reflètent les châtiments corporels. On voit dans Django les dos fouettés des esclaves, les représailles aussi dès qu'un esclave est considéré comme fautif. Dans 12 Years a Slave aussi, le fouet est omniprésent. Les esclaves sont pendus aux arbres et on a une vraie omniprésence de la violence poussée à l'extrême qui s'accompagne aussi d'une représentation assez juste de toute l'expérience des esclaves, de la vente sur le marché aux esclaves au déracinement par rapport aux familles, au transport aussi d'une plantation à l'autre. Donc ces films sont choisis sur la modalité de la dénonciation et on voit l'évolution mémorielle puisqu'il n'est plus question de justifier ou de faire l'apologie de la plantation et du modèle de vie sudiste, mais plutôt de montrer la cruauté et les souffrances qui sont associées à ce mode de vie. Un film qui est très intéressant pour analyser les nuances qui sont quand même à apporter sur cette violence et la complexité de cette situation, c'est le film The Birth of a Nation, réalisé par Nate Parker en 2016. Donc un siècle après Griffith, un réalisateur noir choisit le même titre pour parler pour prendre pour objet un esclave qui a mené une révolte d'esclaves en Virginie dans les années 1830. Et ici, la représentation de la plantation est extrêmement crédible parce qu'on a toutes les facettes de ce qu'était la plantation. Il y a la violence, bien sûr, la violence des représailles après la révolte. Il y a la violence de l'esclave qui tue son maître pour lancer la révolte, celle de la vente d'esclaves, mais il y a aussi tout ce qu'on tend à éluder, qui est que la plantation est aussi un lieu d'apprentissage, parce que Nat Turner, le héros, a grandi dans une plantation assez douce, si on peut dire, où les esclaves étaient respectés parce que, et c'est une réalité, il fallait qu'ils soient aptes à travailler au champ. Donc la condition de servitude implique une oppression, mais la maîtresse de maison avait appris à lire à son esclave. Il y a une amitié aussi qui s'était nouée entre Nat Turner et le fils du propriétaire de la plantation parce qu'ils ont grandi ensemble, ils ont passé leur enfance à jouer ensemble. Et il y a aussi montré le mariage de Nat Turner avec une autre esclave et donc montrer comment la plantation est aussi un lieu de socialisation, de création d'une société purement africaine-américaine et de relations sociales et aussi de joie paradoxalement dans cet univers, donc aux multiples facettes. Ça nous permet de voir que dans le cinéma beaucoup plus récent, on atteint une forme de représentation réaliste, beaucoup plus crédible, et à toujours garder en tête, bien évidemment, le fait que tout film est un parti pris avec une subjectivité et que l'excès de violence n'est pas forcément une norme et n'est pas plus une représentation parfaitement crédible de la plantation que ce que pouvait l'être Autant on emporte le vent, par exemple. Et enfin, je vous propose d'évoquer des films d'horreur pour aller un peu plus loin dans cette réflexion où on est sur des films qui assument pleinement le fait qu'ils ne sont pas des représentations historiques, ne sont pas des représentations du passé, et pourtant sont assez intéressants pour analyser l'évolution de la mémoire collective associée à ces questions, et de choisir le lieu de la plantation dans des films très contemporains qui parlent de la période contemporaine. Ça permet de voir qu'on ne représente plus la plantation pour ce qu'elle est en tant que lieu et ce qu'elle a représenté dans l'histoire, mais plutôt comme métaphore de la persistance du racisme dans la société contemporaine et de ses effets au quotidien encore pour les relations entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Donc le premier film, c'est Antebellum. C'est un film dans lequel on suit deux héroïnes jouées par la même actrice. L'une est une militante noire américaine dans les années 2020, l'autre une esclave dans une plantation. Et tout au fil du film, on voit cette esclave qui essaye de s'échapper et qui est marquée au fer rouge comme tous les esclaves fugitifs. Et puis, il y a aussi des choses qui posent question. Par exemple, le coton, quand il est cueilli, il est brûlé directement et on commence à se demander un peu pourquoi. Et en fait, on se rend compte que cette plantation n'est pas du tout située au 19e siècle, que les deux héroïnes n'en sont en fait qu'une et que cette militante a été kidnappée par des suprémacistes blancs en 2020 qui ont recréé une plantation à l'arrière d'un camp de reconstitution de bataille de la guerre civile. Donc la question ici, c'est de voir les enjeux posés par la reconstitution. C'est un divertissement qui est très répandu aux États-Unis, de reconstituer des batailles de la guerre civile, à savoir aussi que quelle que soit la bataille représentée, que ce soit une victoire ou une défaite du Sud, il est toujours plus facile de trouver des volontaires pour jouer des soldats confédérés. Donc on voit aussi l'ampleur de la Lost Cause dans l'imaginaire collectif, parce qu'il y a quand même une idée que le soldat confédéré, c'est lui le porteur des American Values. Donc, alors même que c'était des soldats qui se battaient pour la persistance de l'esclavage. Et donc ici, passé par l'horreur et par un détour par rapport à la représentation réaliste, ça permet de montrer les enjeux de la reconstitution, les problèmes que ça peut poser, et de se demander si finalement reconstituer n'est pas une manière de pérenniser les pratiques, de pérenniser une idéologie qui n'a plus lieu d'être dans une société normalement dénuée de ségrégation et d'esclavage. Et on a un petit écho, donc à la fin on voit le panneau qui annonce, donc on est sur un camp de reconstitution, et en dessous il y a marqué « Anyone disturbing the peace of this plantation will be prosecuted », qui est exactement le même panneau qu'on trouve au début d'Autant on emporte le vent, ce qui montre qu'en fait, au vu et au su de tous, l'idéologie peut perdurer parce qu'on a le même avertissement finalement, et donc un indice de ce qui se passe derrière et derrière la plantation, quelles sont les conséquences. Donc par la métaphore, on a un discours de dénonciation assez intéressant, et le fait que le coton soit brûlé aussi montre que finalement dans la société contemporaine, une fois qu'on est dénué de l'enjeu économique justifiant l'esclavage, on est juste sur une modalité qui est régie par la violence et le sadisme des personnes racistes. On voit aussi la représentation de la plantation dans le film Bad Hair qui se déroule à la fin des années 80. L'héroïne s'appelle Anna, elle travaille dans une chaîne de télévision qui est spécialisée dans la musique africaine-américaine, et son patron lui dit que si un jour elle veut passer à l'écran, il va falloir qu'elle fasse quelque chose pour ses cheveux crépus, parce que ça ne peut pas passer comme ça à la télé, il faudrait qu'elle ait les cheveux lisses, et donc qu'elle fasse un tissage de cheveux. Et quand elle parle de ça à son oncle, qui est enseignant en Black Studies, il lui parle du mythe de la jeune fille aux cheveux de mousse, qui était une esclave dans une plantation, qui rêvait d'avoir les cheveux aussi lisses que son maître, et un jour, en se baladant dans la forêt, elle a utilisé de la mousse qui poussait sur les arbres pour s'en faire une perruque. La perruque a pris possession de son âme, elle est devenue criminelle parce que hantée par cette perruque qui lui faisait perdre ses moyens, elle a finalement commis beaucoup de crimes. Et on se rend compte qu'en fait, Anna subit exactement la même chose avec ses cheveux qui sont animés d'une vie propre et font d'elle une criminelle. Et donc elle réussit à la fin du film à s'en détacher, ce qui n'est pas le cas de toutes ses collègues qui sont elles aussi passées par le même salon de coiffure. Et la fin du film nous montre une séquence où on est dans une plantation, où on voit des noirs en bleu de travail cueillir des cheveux, les mettre dans des paniers qui sont ensuite livrés par camion dans le fameux salon de coiffure où les cheveux sont ensuite tissés. Et puis en fait on comprend que le mythe de la jeune fille aux cheveux de mousse est toujours actuel et ne s'arrête pas. Donc ici bien sûr on est sur du surnaturel et sur de l'horreur, mais ce qui est intéressant c'est de voir que la plantation elle est là pour nous montrer qu'on ne cueille plus le fruit de la servitude pour le vendre, le coton, le maïs, le tabac, on cueille la servitude elle-même. Et on cueille ses cheveux qui sont le symbole de l'esclavage contemporain des femmes noires, c'est-à-dire la réduction et l'oppression par rapport aux normes de beauté des femmes blanches, donc la peau claire, les cheveux lisses, et que ces normes constituent une forme d'esclavage symbolique et qui perdure dans la société contemporaine. Donc pour conclure sur ces questionnements, on voit que la représentation de la plantation a énormément évolué tout au long du XXe siècle, et particulièrement sur les années récentes où, on le sait, dans la société, ces questionnements sont réactualisés. Donc c'est pas anodin aussi de voir de plus en plus de films sur ces questions, parce que c'est sans cesse réactualisé. Et on voit que la plantation n'est plus l'image du cœur d'une civilisation idéalisée, mais vraiment un lieu de dénonciation, de démonstration de la violence de l'esclavage et aussi de sa complexité. L'idée, c'est aussi de garder à l'esprit d'avoir le moins possible une représentation manichéenne, sans nier la violence et les crimes de l'esclavage, de voir qu'il y avait aussi d'autres choses et que ça ne se réduit pas au fouet et au châtiment corporel. Et les films d'horreur, eux, permettent d'aller plus loin et de vraiment dire quelque chose de la mémoire collective et du traumatisme collectif de toutes les personnes noires qui ont subi l'esclavage et qui sont en fait les descendants des personnes ayant subi l'esclavage. Donc je vous propose d'ouvrir la réflexion sur la représentation dans des films d'horreur d'un autre lieu fantasmé par les Blancs qui est le ghetto urbain, où finalement, comme la plantation, c'est un espace qui est majoritairement représenté par les Blancs dans les médias, dans le cinéma, à partir des années 90, et assez caricatural, comme un lieu de non-droit où la drogue et le crime règnent, et où finalement on tait aussi la dimension structurelle, de la construction du ghetto comme prison urbaine qui empêche les Noirs d'accéder à la même vie sociale que les Blancs aux États-Unis. Ici, dans les deux films Candyman, on part du même mythe. Donc c'est un homme qui a été atrocement lynché à la fin du 19e siècle et qui continue à hanter le ghetto de Cabrini Green à Chicago des années après et qui continue à se venger en commettant des crimes atroces. Et on voit une évolution de la représentation du ghetto entre 1992, le premier film réalisé par un homme blanc, Bernard Rose, et 2021, le film plus récent réalisé par une femme africaine-américaine, Nia DaCosta. Dans le film de 1992, l'héroïne, elle est blanche. C'est l'étudiante qui s'intéresse à ces questions, qui va dans le ghetto pour en savoir plus, qui se met en danger, qui rencontre ce fantôme, et ce fantôme vengeur, en réalité, les personnes qu'il tue sont noires. C'est les habitants du ghetto. Alors qu'il revendique une vengeance envers les Blancs. Dans le film de 2021, on a plus de complexité. Encore une fois, on a toujours un fantôme vengeur, mais un fantôme qui se venge cette fois en tuant les Blancs qui l'ont fait souffrir. Le ghetto a été détruit, donc les barres d'immeubles n'existent plus. Le ghetto est en train de se gentrifier et c'est un artiste noir qui arrive parce qu'il il a acheté un pavillon très joli dans le ghetto. Il commence à s'intéresser à l'histoire et lui aussi il se retrouve hanté par cette figure de Candyman. Mais ici Candyman le hante à tel point qu'il se fond un peu en lui, où on voit le personnage devenir petit à petit Candyman et on se rend compte que la figure de Candyman, le fantôme, est en fait multiple et qu'il est finalement tous ces Noirs qui ont subi l'esclavage, qui ont subi la ségrégation. Et donc en 30 ans, on voit aussi une évolution, même dans une période plus contemporaine, une vraie évolution de la représentation des souffrances des Noirs américains.